Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce matin pour vous servir, fidèles auditeurs. Eh bien, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler des hépatites virales. Quelles sont les causes, traitements et préventions et modes de prévention? Nous allons accueillir tout à l'heure le docteur Pascal Tchamala, expert en hépato-gastro-entérologie. Vous voulez en savoir plus sur ces maladies qu'on appelle les hépatites virales? Appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Dans la deuxième partie de l'émission, quels sont les avantages du système LMD et comment le mettre en œuvre dans tous les établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo, comme le souhaite le ministre des tutelles? Eh bien, nous allons échanger autour du système LMD à partir des 10h05, 11h05, pardon, heure des Kinshasa. Des questions et préoccupations, composez le 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission à la technique. Dieudonné Nyangasa, Jody Daniel Kachama au micro. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas manquer, les nouveaux disques, peintures et photos, les expositions à voir, les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Okapi. La culture congolaise est bien vivante et nous la mettons en valeur. L'agenda culturel, c'est du lundi au vendredi à 7h50 et à 8h50 et samedi et dimanche à 6h50 et 7h50.
Straight home with me, and that's when vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Fidèles auditeurs, encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Eh bien, aujourd'hui, nous parlons des hépatites virales. Quelles sont les causes, quel est le traitement et les modes de prévention? Eh bien, les hépatites sont des maladies silencieuses, mal connues dans nos milieux. Et pourtant, de nombreuses personnes en souffrent. Et il s'agit notamment de l'hépatite B et l'hépatite C, qui se traduisent par une inflammation de foie, d'après les spécialistes. Même si on en parle peu, les hépatites virales constituent un véritable problème de santé publique et un handicap au développement communautaire. Alors, quelles sont les causes et les symptômes des hépatites? Peut-on les soigner? Quels sont les modes de prévention? Eh bien, nous allons aborder toutes ces questions avec notre invité. Il s'agit de Dr Pascal Tchamala. Il est expert en hépato-gastro-entérologie. Docteur Pascal Tchamala, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission.
Merci de m'avoir invité.
Alors, c'est quoi les hépatites? On entend parler des hépatites. De quoi s'agit-il?
Comme vous avez dit, tout ce qui se termine par « it » en médecine traduit une inflammation. Et donc, les hépatites sont une inflammation du foie qui est un organe que nous avons tous et qui peut être parasité par des virus B et ou C, mais il y a 6 virus. Mais ici, nous parlons des hépatites B et C. Donc, c'est une inflammation du foie à cause de virus.
Et c'est quoi le foie, docteur?
Le foie, c'est un organe que nous avons qui a une très, très grande importance dans notre organisme. C'est le plus gros, d'ailleurs, avec le cerveau, dans notre corps. Et c'est par lui que passe tout matériel que nous avons ingéré, qui doit être travaillé au niveau du foie pour être bien absorbé par notre corps. Et donc, c'est un endroit essentiel. Lorsque nous sommes en insuffisance hépatique, ça se traduit par beaucoup de symptômes qui conduisent à la mort.
C'est un organe qui est situé à quel niveau?
Il est situé juste au niveau de l'hypocondre droit. Hypocondre, c'est juste en dessous de la grille costale, en dessous du poumon droit.
Okay. En dessous, c'est là où est situé le foie.
Oui, il y a le diaphragme entre les poumons et le foie. Et le diaphragme, c'est un gros muscle qui est là, qui sépare la cage thoracique avec l'abdomen.
Donc tout ce que nous mangeons, ça doit passer d'abord par le foie.
Absolument. Tout ce que nous mangeons passe par l'œsophage, ça passe par l'estomac. Et de l'estomac, ça va passer au niveau d'une partie qu'on appelle le duodénum. C'est à cet endroit-là que ce qui vient du foie, notamment les sécrétions des voies biliaires, viennent et passent par le pancréas, et puis ils sont injectés dans le duodénum, et là ils se mélangent à ce que nous mangeons. Alors ce que nous avons fait là, c'est mettre, si vous voulez, une sauce qui va maintenant entrer dans l'intestin grêle pour être conditionné et que donner à l'organisme la possibilité de retirer le meilleur de ce que nous mangeons.
Et de rejeter le...
Alors, après ça, c'est rejeté au niveau du gros intestin qui va absorber toute l'eau, parce que toutes ces opérations dont je viens de parler vont fournir 9 litres d'eau. 9 litres d'eau qui sont récupérés au niveau de l'intestin, du gros intestin, et qui fait que à ce moment-là, il va récupérer 7 litres d'eau et 2 litres qui vont rester vont être expulsés par voie urinaire, par la transpiration, et ainsi de suite.
Et quels sont les facteurs sont à la base de l'inflammation du foie?
Ah ben, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs toxiques. Par exemple, l'alcool peut, à la fin, provoquer ce qu'on appelle une hépatite toxique.
On entend parler des cirrhoses de foie, cirrhoses de foie.
Ça, ce sont des conséquences de la suite d'une inflammation du foie. Effectivement, le foie passe par plusieurs stades. Il y a d'abord le foie normal, et puis il y a ce qu'on appelle une infiltration du foie par la graisse, On appelle ça stéatose. Cette infiltration, lorsqu'elle est fort avancée, elle peut se transformer en cirrhose. Le foie devient dur et fibreux. Mmh. Et la cirrhose peut se transformer plus tard. Alors, quand il y a la cirrhose, il y a possibilité de faire ce qu'on appelle une insuffisance hépatique, qui peut être aiguë ou chronique, selon les cas. Lorsqu'elle est aiguë, parfois, elle se termine très mal. Mmh. Alors, quand elle est chronique, elle peut rester dans l'organisme, mais elle nous expose à beaucoup de choses, notamment à une hypertension portale, c'est-à-dire que au niveau de la circulation du sang, au niveau du foie, mmh. on va voir une désorganisation de cette circulation qui va faire en sorte que au niveau de l'œsophage, il va y avoir ce qu'on appelle des varices œsophagènes qui peuvent éclater et faire vomir du sang à quelqu'un qui, si ce n'est pas arrêté, la personne peut mourir. Oui. Et donc, tout un tas de complications.
Donc, c'est d'abord l'alcool qui est...
C'est pas d'abord l'alcool.
Le facteur numéro un.
C'est aussi
l'alcool.
C'est aussi l'alcool. Mmh. Et puis, il y a les virus dont on parle aujourd'hui. Oui. Les virus B et C sont responsables d'une inflammation du foie qui peut être aiguë et qui va très vite passer, mais qui est souvent chronique. Et c'est ça le problème des hépatites chroniques B et C. Ce sont des hépatites qui vont s'installer après avoir fait du bruit. C'est-à-dire, vous êtes devenu jaune, vous avez fait de la fièvre, vous êtes faible, etc., etc. Vous avez dépassé la phase aiguë. Vous entrez maintenant dans la phase chronique qui va durer des années. Au point que lorsque vous attrapez une hépatite à l'âge, disons, à 5 ans, 10 ans, parce qu'on vous a donné du sang de quelqu'un qui avait de l'hépatite, eh ben, vous allez développer la cirrhose, vous allez développer le cancer du foie, parce que c'est le cancer le plus fréquent dans notre population jeune, eh ben, vous allez développer ça lorsque vous êtes en train de terminer l'université, par exemple. Alors, vous voyez, vous avez fait tous les efforts pour devenir quelqu'un,
oui, médecin,
par exemple,
tout ça, oui.
Et voilà que, à l'aube de votre vie professionnelle, on vous déclare porteur d'un cancer du foie. Et actuellement, les traiter, ce n'est pas facile.
C'est pas facile.
Ouais. Et donc, il y a cette cause-là.
Donc, il y a le fait de
prendre l'alcool.
De prendre l'alcool. Ouais.
Et puis, il y a le fait que les hépatites sont souvent... c'est souvent
parce que l'alcool transfuse le sang d'une personne infectée.
Si on transfuse le sang d'une personne infectée à une personne qui n'est pas porteur, il court le risque d'être infecté. Mmh. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle, par exemple, tout ce qui est objet tranchant, qui est souillé par du sang de quelqu'un qui est porteur du virus de l'hépatite B ou C. Par exemple, chez le coiffeur, si vous allez chez le coiffeur et que on va vous raser la tête avec une lame de rasoir qui est infectée parce qu'on a fait ça avec un patient bien avant et puis on n'a pas nettoyé cette lame de rasoir, eh bien, vous courez les risques... Avec la tondeuse, avec tout ce qui est tranchant. Et puis, la même chose que quand vous allez faire le manucure, pédicure, si on a fait avant vous chez quelqu'un qui est porteur et qu'on n'a pas nettoyé la chose d'une façon correcte, et c'est ce qui arrive souvent malheureusement, vous courez le risque de faire ça. Si on vous fait la circoncision avec une lame de rasoir qui est infectée, ainsi de suite. Donc, tout objet tranchant qui est en contact avec un malade qui est porteur du virus B ou C, cet objet sur vous, par exemple l'injection, les injections dans les dispensaires de fortune comme ça par-ci par-là, les différents quartiers sont des injections faites avec des seringues qui en principe ne sont pas réutilisables. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent ça, ils mettent un peu dans de l'eau chaude et puis voilà, ce n'est pas suffisant pour désinfecter la chose et voilà, ils font courir aux gens le risque d'attraper la maladie. Et je vous assure que dans le monde, il y a plus ou moins 400 millions de personnes qui sont infectées par le virus de l'hépatite B et C, et il n'y a seulement que 5% de ces 400 millions qui sont au courant.
Et est-ce qu'on a les taux de prévalence ici chez nous à RDC?
Nous n'avons pas les taux de prévalence faits sur une grande échelle. Mais depuis plus ou moins 3 ans, nous, à la clinique Astrid, avec notre équipe RDC Tokolonga Hépatite, nous avons une estimation qui nous porte, avec ce qu'il y a dans la littérature, qui fait que ça varie entre 3 et 7% des taux de prévalence. Mmh. Et sur ces 7% des taux de prévalence, nous avons 4% des hépatites, B, oui, et puis 3% des hépatites C. Mais tous ces chiffres demandent à être confirmés, actualisés, oui. Et c'est pour ça que au courant de cette journée, il y aura une journée le 28 juillet, demain.
C'est demain la célébration
demain
de la journée.
De la commémoration de la journée.
Oui.
Nous avons
à lutte contre l'hépatite.
Oui, nous avons à vulgariser un programme qui a 3 axes. L'axe 1, sensibilisation de la population, parce que la population, même les autorités, même les médecins, même les professionnels de santé qui sont supposés connaître, ne sont pas au courant de ce que c'est les hépatites, le mode de transmission, etc. Alors nous allons mettre sur place, sur pied, nous le faisons déjà maintenant dans la commune, dans la zone de santé de Kalamu, Kalamu 2, nous faisons des campagnes de sensibilisation pour pouvoir à la fin établir une carte de la menace des hépatites dans notre pays. Parce qu'effectivement, les hépatites sont une menace de santé publique qui a été proclamée par l'OMS.
Alors, docteur, avant d'aller plus loin, vous allez revenir sur le programme de sensibilisation et autres.
Oui.
Quels sont les symptômes des hépatites?
Je vous ai dit qu'il y a 2 phases. Il y a la phase aiguë, c'est-à-dire quand vous avez attrapé l'hépatite, comme je vous ai dit là, vous allez passer par une phase d'incubation qui est pratiquement silencieuse, qui se manifeste comme un syndrome grippal, c'est-à-dire vous avez comme une grippe. Mmh. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez passer par une période de température en plateau. C'est-à-dire, vous faites la température, elle ne baisse pas. Elle ne baisse pas parce que elle ne peut pas baisser parce que vous êtes forcément malade. Il faut prendre du paracétamol, etc., etc. Le paracétamol est aussi mauvais pour le foie. Et donc, après cette période de température qui peut durer plus ou moins 10 jours, voilà que la température cède. À ce moment-là, apparaît les yeux jaunes. C'est un des signes les plus connus. On appelle ça en médecine l'ictère. Eh ben, cet ictère-là va rester pendant quelques temps aussi.
C'est pas ce qu'on appelle aussi jaunisse.
Jaunisse, voilà.
Voilà, c'est
ça.
Cela.
C'est ce qui fait dire jaunisse. Mm. Mais en termes appropriés, on l'ictère. Appelle ça l'ictère.
Okay.
Ah bon, cet ictère-là va rester plus ou moins 10 jours, un peu plus, et puis elle va régresser, elle va diminuer. Mm. Apparaît maintenant une période de fatigue extrême. Importante, qui va durer quelque temps. Et alors, à ces moments-là, la période, soit le corps a rejeté, il va fabriquer des anticorps qui vont rejeter le virus de votre organisme, et c'est tant mieux, soit, et ça c'est dans le 20% des cas, dans 80%, la maladie entre dans la clandestinité. Elle entre dans une phase silencieuse.
À bas bruit.
Il n'y a même pas de bruit bas.
Donc il n'y a rien.
Il n'y a rien, mais le virus agit en vous. Mm. Petit à petit, et va passer par les stades dont j'ai parlé tout à l'heure. Mm. Une stéatose, c'est-à-dire une infiltration des graisses de votre foie. Et puis progressivement, vous allez développer ce qu'on appelle une insuffisance hépatique aiguë ou qui va devenir chronique. Et puis vous allez développer une cirrhose. Et enfin, vous allez passer par ce qu'on appelle un hépatocarcinome.
Bien, on va accueillir dans cette émission les auditeurs appels pour vous poser des questions.
Ok.
Nous parlons des hépatites virales, cause, traitement et prévention. Nous avons en ligne Safari depuis Higa Barrière. Safari, bonjour. Safari, vous êtes en ligne depuis Higa Barrière. Bonjour. Quelle est votre question?
Allô?
On vous écoute, Safari. Ben, il y a quelques soucis au niveau de la ligne téléphonique. Je pense qu'il va nous rappeler plus tard. Alors, docteur, on parle des hépatites C, hépatite B. Quelle est la différence entre les deux?
Ben, en fait, c'est une nomenclature. L'hépatite B, c'est une hépatite à ADN. Et l'hépatite C, c'est une hépatite à ARN. Hein? Ce sont des termes qui désignent la nature profonde. Par exemple, l'hépatite C a la même nature que la COVID-19. que le virus SARS-2, COVID-19, eh ben, ils ont la même nature parce que ce sont des virus à ARN.
Qu'est-ce que ça veut dire, ARN?
Acide ribonucléique.
Ça veut dire quoi, docteur?
C'est la structure intime de notre être.
Okay.
C'est ça le programme de l'être humain.
D'accord. Voilà. Voilà. Un instant, docteur, on va accueillir un auditeur, Serge Kalobia, depuis Kindu. Bonjour.
Bonjour à Radio Okapi et bonjour à l'invité.
Quelle est votre question? Nous parlons des hépatites virales.
Oui. Je voudrais seulement poser la question. J'ai pratiquement une question que je voudrais poser à l'invité. Est-ce que quelqu'un...
Oui, Serge, on vous écoute. Bien, quelques soucis au niveau de la communication aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on va accueillir Héritier de Bounia. Bonjour, Héritier. Héritier, vous êtes... Voilà, il y a quelques soucis, on va revenir là-dessus. Docteur, on était en train de faire la différence entre les hépatites B et C.
Oui, oui, donc il y a des hépatites B et C.
Vous étiez en train de dire que les hépatites C ressemblent au COVID-19.
Ah oui, la structure intime, hein, c'est une structure ARN, hein, et alors que l'hépatite B, c'est la structure ADN. C'est vraiment comment est-ce qu'on dit? La matière première à partir desquelles l'homme est fabriqué.
Okay. Si je peux dire comme ça. C'est ça que vous appelez les ARN.
L'ARN, l'acide ribonucléique, et l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Et donc, voilà. Mais il n'y a pas que ces deux types de virus. Il y a aussi le virus A, le virus B, le virus C, le virus D et le virus E. Il y a 5 types de virus, et mais les plus importants, les plus dangereux, ce sont les virus B et C qui passent à la chronicité et qui vont provoquer un impact considérable dans l'organisme, au point que l'OMS a décidé que d'ici 2030, le monde doit avoir éradiqué les hépatites virales, et ainsi le monde... ayant éradiqué les hépatites virales, pourra atteindre les objectifs du millénaire, donc d'ici 2030. Dans ces objectifs du développement durable, les hépatites sont classées au niveau 3. Et c'est donc, si nous parvenons à vaincre les hépatites d'ici 2030, qui est un objectif majeur, des objectifs à développement durable, nous serons capables d'accéder au développement humain avec ou sans Covid.
Est-ce que les hépatites se soignent ou bien c'est des maladies chroniques?
C'est des maladies chroniques qu'on peut soigner. L'hépatite B, par exemple, on peut prévenir l'hépatite B parce qu'il existe un vaccin qui a été mis en place depuis longtemps. Et l'hépatite B comme l'hépatite C, il y a plus ou moins 5 ans qu'on a eu des médicaments efficaces contre l'hépatite B et des médicaments efficaces contre l'hépatite C qui soignent les maladies, mais qui ne vous dépannent pas de faire une récidive si vous êtes toujours exposé à la même maladie.
Mais la difficulté, c'est que c'est une maladie, ce sont des maladies silencieuses.
Eh ben, puisque c'est silencieux, effectivement, c'est pour cela que nous organisons ce qu'on appelle des dépistages. Vous devez venir vous faire dépister parce que on ne sait jamais, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et donc, les dépistages sont faits justement pour prendre la maladie le plus tôt possible avant que la maladie n'ait provoqué des complications.
Et est-ce qu'il y a un âge particulier où les sujets peuvent développer les hépatites?
Non, il n'y a pas un âge particulier parce que déjà à la naissance, les enfants peuvent être contaminés soit par leur maman, soit par les professionnels soignants, et au point que actuellement, on a instauré un vaccin d'une façon systématique à la naissance des enfants. Après 1 mois, 2 mois, on leur administre avec le paquet de vaccins qui existent déjà, des vaccins contre le virus de l'hépatite B, parce que l'hépatite C n'a pas encore de virus, de vaccins.
De vaccins.
Yeah. Mais il a des médicaments très efficaces qui existent dans notre pays, mais malheureusement, dont l'accès est vraiment prohibitif parce que ça coûte cher d'accéder et aux services qui nous permettent de poser le diagnostic des hépatites et au traitement. Mmh. Alors, c'est pour cela que nous devons nous organiser au niveau des communautés et nous avons lancé le concept de solidarité communautaire où tout le monde va cotiser comme on fait pour un mabonza, comme à l'église, hein, et parvenir avec ces mabonza-là de soigner les 7% qui sont positifs. Et c'est possible. Tokoko Salayongo.
Tokoko Salayongo.
Boyo.
Ok, on va accueillir les auditeurs. J'ai en ligne Héritier depuis Bounia. Bonjour Héritier.
Bonjour, je suis Daniel Kassiama. Bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation, Héritier?
Je voudrais savoir, le docteur vient de nous dire que le seul aliment ou bien la boisson, c'est elle qui provoque l'hépatite B là qu'on vient de nous dire là. Alors, les gens, on est en train on prêche tout le jour à l'église qu'il faut laisser la boisson, mais les gens ne comprennent pas. Alors, je voudrais poser aussi une question. On nous a dit que l'hépatite B peut provoquer les cirrhoses des foies. Est-ce que y a-t-il des symptômes que l'on porteuse de cette hépatite B peut provoquer pour qu'on sache réellement qu'il souffre de l'hépatite B ou bien de l'hépatite C là. Dans la deuxième préoccupation, je voudrais savoir s'il y aurait des centres spécialisés pour le traitement de cette maladie. Parce que nous regardons, même dans nos hôpitaux généraux, nous n'avons pas des médecins spécialisés pour pouvoir traiter des cas pareils. Alors, combien de centres avons-nous dans notre pays pour pouvoir soigner les personnes qui souffrent de maladies comme ça? La troisième question, je voudrais savoir à combien plus fort de raison le gouvernement prenne en charge les personnes qui n'ont pas les moyens pour pouvoir se soigner eux-mêmes. Ce sont ces trois préoccupations que j'avais à présenter à la radio cabinet.
Bien, merci Héritier. Fabien Kambi nous appelle depuis Kindu, dans la province du Maniema. Bonjour Fabien.
Bonjour Monsieur Sori Daniel Nkanchama et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Ok, moi je suis très intéressé par ce sujet. Parce que c'est ma première fois d'écouter qu'il y a une maladie qu'on appelle hépatite. Alors, comme vous avez lancé le sujet de cette maladie, je vais saisir l'opportunité de connaître quelques questions qui peuvent m'aider à connaître, à approfondir cette maladie. J'aimerais savoir quels sont les symptômes de l'hépatite, quelle est la forme la plus dangereuse de l'hépatite, est-ce que c'est grave une hépatite, quelle hépatite est mortelle, quelle est l'hépatite mortelle, hein? Est-ce que l'hépatite, c'est une maladie contagieuse? C'est ce que j'aimerais savoir, parce que moi, je n'ai jamais entendu de cette maladie depuis que je suis né dans ce monde.
D'accord, c'est la première fois pour lui d'entendre parler des hépatites. Bien, merci d'avoir appelé. Revenons d'abord à la question. Héritier de Bounia nous dit, on a toujours interdit aux gens de ne pas prendre l'alcool parce que c'est à cause des hépatites, les gens ne comprennent pas. Alors, docteur, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la prise d'alcool? Est-ce que le fait de prendre régulièrement l'alcool vous expose à développer les hépatites?
Effectivement, prendre l'alcool va exposer la personne qui le fait à ce qu'on appelle une hépatite toxique. Hein, donc, elle n'est pas virale, celle-là. Elle est toxique. La personne va développer une hépatite à cause de l'alcool.
Ça dépend de la quantité aussi et de la
fréquence. Mais bon, vous avez dit fréquemment et en quantité exagérée, quoi. Hein, non, chose. Mais vous savez, les gens ne savent pas estimer souvent. Quand ils aiment, ils disent non, je prends seulement
une bouteille
par jour, même trois, c'est pas beaucoup. Je prends du vin un peu, etc.
Mais bref, il peut se retrouver en train de vider un casier.
Voilà, il peut se retrouver en train de vider un casier de bière parce que on a toujours marqué en dessous le taux d'alcool. Mmh. Hein, il y en a qui ont 2%, 5%, 10%, 15%, même 20%
d'alcool. Et il y a d'autres qui prennent l'alcool indigène. Le taux d'alcool n'est pas...
Bon, c'est de l'alcool, que ce soit indigène ou pas, il faut pas nous complexer.
Oui.
Hein, c'est de l'alcool, que ce soit de l'alcool fabriqué en Occident ou ici, c'est de l'alcool.
C'est de l'alcool.
C'est de l'alcool. Vous avez Supunatolo et des histoires
comme
ça.
Voilà, tout ça, les whisky.
Voilà, les whisky. Mm. Et donc, la personne qui s'expose à ça et qui dépasse les recommandations de l'Évangile, qui dit... Vous pouvez consommer parce que le Christ a dit faites ceci en mémoire de moi, mais d'une façon modérée, n'est-ce pas? Si vous faites ça d'une façon modérée, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez montrer au monde entier que vous êtes le
grand consommateur d'alcool
avant Centre et Sovenco, si vous vous rappelez de cette appellation là,
oui.
Eh ben vous exposez votre foi à être victime, si je peux dire, d'une cirrhose. Et puis d'un cancer.
Alors, voilà. Il veut savoir s'il existe des centres de traitement, des prises en charge,
oui,
des hépatites un peu partout à travers le pays.
Oui, nous avons des centres dans tous les hôpitaux généraux de référence. Notre système sanitaire est de type pyramidal. Nous avons les aires de santé, et puis nous avons les centres de santé. Après les centres de santé, nous avons les hôpitaux généraux de référence. En principe, à tous ces trois niveaux-là, il est possible d'organiser la lutte contre les hépatites. C'est-à-dire, au niveau des aires de santé, on doit pouvoir faire de la sensibilisation, informer les gens sur la menace des hépatites. Et c'est ce que nous faisons avec ce qu'on appelle les relais communautaires.
Mmh.
Et au niveau de centres de santé, nous faisons ce qu'on appelle les dépistages. Hein, des dépistages, des gens vont venir des aires de santé pour venir se faire dépister. Ils ont eu l'information, ils aimeraient savoir s'ils sont plus ou moins atteints ou pas. Alors, ils vont faire cela, et une fois qu'ils sont diagnostiqués positifs, porteurs des hépatites B ou C, ils vont maintenant passer à l'hôpital général de référence de leur zone de santé, et là, ils vont être pris en charge d'une façon curative. On va pouvoir non seulement confirmer le diagnostic, mais pouvoir maintenant leur donner un traitement spécialisé, parce que les hôpitaux généraux de référence travaille avec des médecins spécialistes comme nous, et avec ces médecins spécialistes, ils gèrent le traitement qui existe dans notre pays, et comme j'ai dit, mais qui est vraiment cher pour le niveau de vie de notre population.
Le traitement est coûteux.
Il est fort coûteux, oui.
Bien. Alors Fabien Dekin devait savoir, existe-t-il une forme grave ou une forme mortelle des hépatites?
Toutes les hépatites, que ce soit toxiques ou virales, vont évoluer vers des phases aiguës qui vont entraîner, ou même chroniques d'ailleurs, qui à l'occasion d'un facteur favorisant, vont passer à ce qu'on appelle une insuffisance hépatique aiguë. Cette insuffisance hépatique aiguë, ou bien ça passe, ou bien ça casse. Et donc, c'est vous dire que c'est une phase grave à laquelle je ne souhaiterais pas que les gens puissent arriver. Malheureusement, il y a des gens qui atteignent ces stades-là. Et puis, ceux qui sont sauvés, donc là où ça n'a pas cassé, mais ça passe, ils vont passer dans la chronicité. Et donc, ils vont avoir les fonctions hépatiques qui sont perturbées en permanence, avec la conséquence que leur système immunitaire va être tout à fait attaqué, c'est-à-dire déprimé, et ils vont être exposés à tout un tas d'infections qui courent dans notre pays, dans notre environnement de vie, et ils sont tout le temps exposés
Le système immunitaire est affaibli.
Est affaibli, oui, à cause de ça.
Est-ce que le fait de prendre les médicaments, souvent, ça peut aussi conduire à développer les hépatites?
Oui, effectivement, des médicaments comme le paracétamol, lorsqu'ils sont pris en quantité exagérée, peuvent arriver aussi à une hépatite toxique.
Gaspi Seke nous a écrit sur la page Facebook de l'émission. Il dit vraiment cette maladie semble être inconnue et négligée dans la plupart des mais elle tue. D'ailleurs, j'ai un témoignage d'un petit de notre quartier qui vient de mourir suite à ça. Le cas s'est aggravé et il est mort en quelques jours après. Mais une préoccupation, quels sont les signes de cette maladie pour vite la combattre? Depuis, vous avez déjà parlé des symptômes tout à l'heure. Émile, depuis Kananga, qui nous dit, expliquez-moi c'est quoi les hépatites, comment ça se transmet, quels sont les signes. Bon, vous avez déjà parlé de ça également. Revenons à la deuxième question de Fabien Dekindo qui dit, qui veut savoir si l'hépatite est contagieuse.
Effectivement, elle est contagieuse. On vient de dire que tout objet tranchant qui va être souillé par du sang d'une personne contaminée, oui, ça peut effectivement se transmettre à celui chez qui on utilise cet instrument. Ça se transmet aussi par le sexe. Ça se transmet aussi par les transfusions sanguines. Ça se transmet par tout contact avec du sang contaminé. Donc, c'est une maladie contagieuse. Elle est infectieuse et contagieuse.
Voilà, Isidore Tanzi nous écrit, il est anesthésiste et réanimateur depuis la ville de Bounia. Les personnes soignantes sont aussi très exposées par cette maladie sans même être vaccinées. Recommandation pour la population, faire des examens de contrôle, se laver régulièrement les mains, traiter en cas d'hépatite. Pour le corps soignant, hygiène des mains, se faire vacciner contre l'hépatite, sensibilisation de la population, faire les tests d'hépatite avant la transfusion. Au gouvernement, disponibiliser le vaccin contre l'hépatite B. Docteur.
Tout à fait, il a tout à fait raison. Les personnels soignants sont non seulement victimes, mais aussi ils sont transmetteurs. Ils voient quand ils ne respectent pas les mesures d'hygiène, ils vont, une maman qui accouche, normalement, mais eux, avec les mains qui sont sales, avec les ciseaux qui sont sales, etc., peuvent prendre le sang de la maman et infecter l'enfant. Et donc, non seulement ils sont victimes, mais ils sont aussi responsables de beaucoup de transmissions de la maladie. Mmh. Ça, c'est vrai. Alors, c'est pour cela que dans d'autres pays, hein, tout professionnel de santé est vacciné contre le virus de l'hépatite B parce que on doit le protéger. Et lui, n'ayant pas le virus, il peut protéger les gens qui vont venir
se faire soigner.
Oui, utiliser l'offre des soins qu'il offre.
Bien, on va accueillir Safari depuis Gabarrière et Malong des Bandonville. Safari, bonjour.
Bonjour, je crois maintenant vous me suivez bien.
Oui, on vous écoute bien. Quelle est votre préoccupation?
Beaucoup de mes questions déjà été abordées par mes prédécesseurs. En fait, j'aimerais l'inviter puisqu'il parler de fumeurs de chardonnier, de fumeurs de tabac. Est-ce qu'ils ont aussi des risques de la maladie? Voilà ma question. Bonne journée, merci.
Bien, merci. Malonga de Bandundouville, bonjour.
Bonjour, M. Kachama. Bonjour à notre invité.
On vous écoute.
En tout cas, je suis en tout cas tellement déçu. Suivant les explications de notre invité, je vois que, en tout cas, nous, nous vivons par la grâce de Dieu. Puisque la maladie qui vit et qui s'habitue à l'organisme de la France jusqu'à la conscience de la personne, je vois que, en tout cas, c'est grave. Alors, est-ce que l'invité peut nous aider vraiment à nous expliquer, à nous donner les tactiques ou les techniques qu'on peut bien vivre avec ce virus. Puisque tantôt, si j'ai bien suivi un invité là, tantôt c'est cirrhose, tantôt moi je le compare avec la tuberculose encore, avec cette rhume qui me dérange chaque fois. Qui fait tout ça? Je n'arrive pas à comprendre. Nous qui font encadrer les enfants que nous naissons, tantôt l'enfant va souffrir avec la toux, et puis ça s'éteint. L'enfant récupère. Après 2 ans, 3 ans, l'enfant qu'on va récupérer tout ça. Donc, avec l'expérience que l'invité vient d'expliquer là-bas, je vois que, donc, je suis en train d'encadrer les enfants qui sont déjà victimes de l'hépatite. Alors, comment on peut
prévenir ces hépatites-là? Merci beaucoup, Malonga. Docteur Chamala.
Oui, je réponds à cette question. Merci de l'avoir posée. En fait, comment est-ce qu'on peut se prévenir? C'est en assistant aux campagnes de sensibilisation, aux campagnes de dépistage, et c'est soumettre et entrer dans ce que j'appelle la pyramide sanitaire pour être suivi. Alors, grâce aux campagnes de sensibilisation, nous prévenons tout le monde, que ce soit les autorités politico-administratives, que ce soit les autorités de la société civile, que ce soit nous, la population. Nous sommes en campagne à partir du 28 de demain. Nous avons lancé tout un programme qu'on appelle projet pilote jusqu'au bout, jusqu'au fond, RDC, Tokolonga, hépatite. Et c'est un programme que je vais mettre sur ma Facebook et que tout le monde peut accéder.
Comment se présente ce programme, docteur?
Il se présente de cette façon-ci. Nous avons la conviction, nous, membres de cette équipe-là, en collaboration avec le gouvernement de la République, nous avons signé un partenariat public-privé qui nous permet d'accompagner le gouvernement dans sa lutte contre la maladie. Parce que le gouvernement est engagé dans cette lutte contre la maladie.
Est-ce qu'il existe un programme?
Il existe un programme national de lutte contre les hépatites. Malheureusement, depuis qu'il est créé, c'était en 2003. Jusqu'à ce jour, il n'est pas encore fonctionnel. Mais c'est en marche. Nous avons déjà sorti depuis 3 ans, nous avons sorti avec le programme du gouvernement ce qu'on appelle un plan stratégique de riposte contre le virus des hépatites B et C. Il est là. Maintenant, ce plan attend d'être validé. Il va être validé et avec le budget qui est déjà fait, je pense que dès l'année budgétaire prochaine, nous allons pouvoir être en même de faire fonctionner ces programmes-là. Mais en attendant, nous avons ce que nous appelons le programme pilote. C'est lui qui va faire en sorte qu'on traite déjà les gens qui sont malades. C'est jusqu'au bout, jusqu'au fond, RDC Tokolonga hépatite. Et c'est ça qui sera mis sous ma page Facebook et qui pourra être utilisé par tout le monde.
Voilà, RDC Tokolonga hépatite. Alors, cette sensibilisation va s'étendre sur combien de temps? Est-ce qu'on a une idée?
Elle va s'étendre jusqu'en 2030. Elle va être intégrée au programme de ce qu'on appelle des zones de santé. La zone de santé, c'est l'unité par excellence de lutte, de riposte contre les maladies. Et donc, nous sommes en train de travailler avec la zone de santé de Kalamu 2 pour implanter tout ce qu'il faut au niveau des choses de cette zone de santé, les 3 axes de notre programme de lutte contre les hépatites. Axe 1, sensibilisation tous azimuts. Axe 2, valorisation de la zone de santé. Axe 3, solidarité communautaire. Et c'est là où, je peux dire en lingala, tozo beta sete. Le vieux Kabila avait dit, le musée avait dit, prenez-vous en charge. Et il avait raison. Si nous pouvons adhérer à un programme que nous allons lancer aussi, $1 pour mon voisin, pour mon prochain, eh ben, à Kinshasa, nous sommes 10 millions d'habitants, et on aura...
Même au-delà,
peut-être 12 millions, on aura $1, je dis pas beaucoup, $1, eh ben, on aura 10 millions de dollars par mois, qu'est-ce qu'on peut pas faire?
Alors, surtout que les traitements coûtent cher.
Oui, c'est ça. Nous pouvons prendre en charge des gens gratuitement. Parce que tout le monde cotise pour son prochain. Comme dans l'évangile, ce monsieur qui n'était pas juif est venu, le samaritain, est venu secourir le juif.
Le bon samaritain.
Voilà, bon samaritain. C'est sur ces principes-là que nous avons mis sur pied ce programme de $1 pour mon prochain. Parce que chacun recharge son téléphone pour au moins $1. S'il peut faire les sacrifices, parce que comme on dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. Puis si on peut faire les sacrifices, je pense que nous allons Tokolonga hépatite.
Tokolonga hépatite. Kalonji depuis Mbujimai dit, une personne qui a l'hépatite peut-elle se marier?
Une hépatite qui a l'hépatite peut se marier. Mais seulement cette personne fait courir à son partenaire le risque d'attraper la maladie. Et donc, non seulement il faut faire des tests prénuptiaux, pour pouvoir épargner le partenaire. L'amour, c'est bien, mais l'amour avec les maladies, je vous assure que c'est pas très gai.
C'est pas agréable.
Donc voilà. Et donc on peut se marier, mais prenez la responsabilité déjà maintenant de vous faire dépister. Ainsi, vous pouvez vous marier tranquillement. On peut pas vous défendre de vous marier.
Bien, on peut pas vous défendre de vous marier.
Oui.
Donc, comme les traitements coûtent cher et coûteux, donc c'est la prévention. Il faut maintenant appuyer sur la prévention.
C'est surtout la prévention, effectivement.
Et il faut faire les dépistages, comme vous l'avez dit.
Absolument. Les dépistages va permettre de faire ce que j'appelle une cartographie de la menace des hépatites dans notre population, dans notre communauté. Là où nous habitons, nous sommes une communauté chrétienne, nous sommes une communauté tribale, nous sommes une communauté politique. On doit s'organiser pour pouvoir se faire dépister et s'organiser aussi pour que Mabonza et Zalapé prennent la santé à Baninga. C'est pas seulement pour construire des églises et des histoires comme ça, mais il faut aussi construire l'église qui est le corps de la personne qui peut être en bonne santé.
Timothée nous appelle depuis Arou. Bonjour.
Bonjour Radio Capi et bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation, Timothée?
La préoccupation est celle-ci, parce que le sujet, sans aucun doute, est intéressant. Le sujet m'intéresse tant, sauf que lorsque M. Lévité parlait de mode de transmission, j'étais éloigné de ma radio. Alors la question est celle-ci. Si cette maladie, le rapport sexuel peut être aussi cité comme mode de transmission, ou si oui ou non, je demanderai à l'éviter de rappeler les modes de transmission parce que j'étais absent.
Vous étiez loin de votre radio.
J'étais éloigné de ma radio.
Alors, vous voulez savoir si les rapports sexuels peuvent aussi être moyens de transmission des
Tout hépatites. À fait. J'ai dit oui. Ça peut être le moyen, surtout pour l'hépatite B. Pour l'hépatite C, c'est dans 65% des cas. Mais pour l'hépatite B, c'est carrément 90 à 100% des cas.
Voilà, donc ce qui est important à faire, c'est le dépistage.
Absolument.
Et quand le dépistage est fait, on le fait tôt.
Oui, on découvre que vous êtes positif, on vous traite parce qu'il y a des médicaments qui existent, mais l'accès à ces médicaments coûte quand même cher.
Mais pourquoi ça coûte cher,
docteur? Mais parce que c'est importé d'une part, et d'autre part, les sociétés pharmaceutiques cherchent à faire du lucre. Alors, vous comprenez bien qu'ils vont pas vous donner ça. Surtout qu'ils savent que c'est une pandémie. Donc, une maladie fortement éparpillée à travers le monde. Je vous ai dit qu'il y a 400 millions actuellement de personnes qui sont positives à l'hépatite B et C.
Jean-Pierre Passois nous écrit depuis Mikalaï. Il dit ceci, pour prévenir les hépatites, tout d'abord, il faut éviter l'automédication, car l'ignorance tue, les produits toxiques peuvent détruire le foie, éviter l'alcool sous toutes ses formes, car ça détruit les cellules hépatiques, éviter de toujours consommer les repas contenant beaucoup de graisse, car beaucoup de graisse rend difficile le métabolisme du foie, éviter de prendre des produits indigènes pour se faire soigner. Le dépistage est très important, car les hépatites sont traitables et guérissables. Non traitées, elles ont trop de complications à la longue, à savoir l'abcès du foie, la cirrhose du foie, l'hépatocarcinome, etc. Docteur Tchamala.
Oui, il a dit tout. Ça, ce sont des mesures générales. Mais bon, dire que les produits traditionnels provoquent des maladies du foie, bon, j'aurais un peu des réserves. Bon, s'ils sont pas bien traités, effectivement, ça devient des hépatites toxiques, tout à fait. Mais bon, il faut pas, pour ça, rejeter toute la médecine traditionnelle sous prétexte qu'elle est dangereuse. Mais ce qu'il dit, en général, est tout à fait bon.
Mais il y a des tradipasticiens qui font la pub à la télé à tout moment.
Mais oui.
Venez chez moi, je soigne toutes les maladies
oui.
du monde.
Oui, ces gens, il faut les encadrer. Il faut pas les rejeter. Il faut les encadrer, voir avec eux qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils appellent l'hépatite. Parce qu'ils n'ont pas d'examen complet. Tous ceux
ils vous
qui
disent
sont...
qu'on a avec le sang, pardon, la salive, on détecte tout ce qu'il y a comme maladie dans le corps.
Bon, il faut encadrer
tout ça,
ces
c'est
gens.
Discutable.
Il faut pas rejeter.
Oui.
Il faut pas rejeter les gens. Il faut les encadrer et travailler ensemble. C'est vraiment une piste que nous pourrons utiliser nous les scientifiques plutôt que de rejeter
que
ces
de
gens
rejeter
en
la,
disant
la
voilà, voilà, c'est ça. Nous devons travailler ensemble. C'est pour l'intérêt de notre population.
Docteur Tchamala, on va bientôt terminer. clôturer, votre mot de la fin?
Mon mot de la fin est que participez nombreux à la commémoration demain de la Journée mondiale de la santé, plutôt de la Journée mondiale des hépatites. Mmh. Nous allons, notre groupe RDC Tokolonga Hépatite, essayer de faire ça d'une façon en télé, en vidéoconférence. Et donc, nous allons envoyer des liens à tous les groupes qui voudraient les avoir, et ainsi notre pays entier pourrait garder les mesures de distanciation, rester chez lui devant son téléphone et recevoir le programme de ce que nous allons faire demain et de ce que nous allons faire l'année prochaine. C'est pour tout faire en sorte que toutes les 35 zones de santé de la ville province de Kinshasa soient alignées sur ce programme. Et enfin, l'année 2023 à 2030, nous allons maintenant couper le modèle que nous avons fait à Kinshasa pour l'implanter dans les provinces. Mais si dans les provinces, il y a des amis qui voudraient travailler avec nous, ils peuvent facilement nous contacter.
Par quel numéro?
Par numéro 081
okay.
89
18
660.
081 89 18 660.
Ou parlez à l'adresse mail.
Oui.
Ptiamala. Ptshiamala.
Oui.
1.
Oui.
@gmail.com.
Bien. Docteur Pascal Tiamala, expert en hépato-gastro-entérologie et ancien médecin directeur de l'hôpital Ngalima.
Oui.
Merci et à la prochaine.
Merci.
Why they